Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Eh bien bonjour, bienvenue à nouveau à un nouvel épisode de Mon Chaussure, cette émission qui est dédiée à la pensée chorégraphique et à tout ce qui peut venir du mouvement corporel. Aujourd'hui, nous recevons spécialement Julie Dubois, danseuse et chercheuse. Bonjour Julie. Je demanderai de te présenter, de dire en deux, trois mots qui tu es pour que les auditeurs se fassent une idée.
Eh bien, je suis donc Julie Dubois, une danseuse, chorégraphe et aussi chercheuse en danse, basée à Montpellier depuis 3 ans maintenant.
Ok, depuis 13 ans. À Castelnaudary, c'est ça?
Mais j'ai grandi à Castelnaudary et après, maintenant je suis à Montpellier.
D'accord. Et donc, raconte-nous un peu comme c'est ton histoire avec la danse, comment tu as commencé
Eh bien, j'ai commencé notamment à Castelnaudary. Dans ma petite école de danse en face de chez moi, voilà, en traversant la rue, en faisant des cours de danse classique, tout simplement, que j'ai fini par arrêter à mes 12 ans, après avoir testé les pointes et avoir compris que c'était quand même pas très sympathique comme expérience. J'ai ensuite fait d'autres choses, du tir à l'arc entre autres, parce que je viens du nord de la France, en Picardie, on fait beaucoup de tir à l'arc. Et j'ai découvert la danse contemporaine un peu plus tard, à 15 ans, et notamment auprès d'un chorégraphe qui s'appelle Wes Howard, qui intervenait dans mon lycée, et avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de l'option danse du lycée, et puis après dans le cadre de sa compagnie. Qui a été ma première vraie rencontre de danse, en tout cas.
De danse.
Ouais.
Mais racontez-nous un peu plus les contrastes entre ces deux univers, l'univers de la danse et après l'univers du tir à l'arc. Comment tu as ressenti les deux?
Oui, eh bien, la danse classique était quelque chose qui m'amusait beaucoup en étant enfant et qui, au fur et à mesure, est devenu un espace un peu de compétition, de comparaison. Et les enfants peuvent être assez durs quand même avec ces choses-là. Et les pointes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement contrariant pour le corps et douloureux. Donc ce n'était plus un espace de plaisir. Et donc le tir à l'arc est quelque chose que j'ai essayé auprès de ma famille et qui n'était pas pour moi un art du mouvement, mais qui était un espace où les gens étaient beaucoup plus sympathiques, c'était plus intergénérationnel, il n'y avait pas trop de prise de tête, du paraître, comme on peut l'avoir dans la danse.
Dans la danse, ouais.
Et puis après coup, je me suis rendu compte que ça m'avait permis de travailler en fait, l'ancrage, l'espèce de calme, parce qu'en fait, on se met en mouvement très peu au tir à l'arc pour être le plus précis possible, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une sérénité qui n'est pas sans lien avec la danse.
D'accord.
En tout cas, telle que je la pratique aujourd'hui.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est plutôt statique, mais il y a quand même une attention qui est absolument figée.
Tu as des micro-mouvements, en fait.
Exactement.
Tu es hyper sensible à le moindre petit mouvement peut être fatal.
Peut être fatal et décisif. Donc oui, on voit un énorme contraste entre cette ambiance compétitive et un peu malsaine
d'une école
à une pratique qui est différente, une pratique sportive.
C'est ça, ouais.
Mais qui plus dans la décontraction et dans l'entraide, tu m'avais dit.
Oui, c'est ça, dans l'échange, dans l'entraide avec des personnes d'âge différent, de genre différent, très différent de la danse classique, où c'est beaucoup des filles du même âge, donc c'était plus dans de la circulation et beaucoup plus récréatif.
D'accord. Donc d'une certaine façon, tu as retrouvé un bonheur quelque
c'est
part.
C'est ça, ouais, un plaisir pris à faire une pratique qui engage le corps et l'esprit et qui soit partagée avec d'autres personnes.
D'accord. Et donc la transmission pour toi, elle a un rôle comment et s'il a un rôle en dehors de l'école?
un message. Je me suis un peu interrogée avec cette question et qu'est-ce que l'on entend par école. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la transmission pour moi est vraiment présente au quotidien. On est tout le temps en train d'apprendre des choses à des gens autour de nous et de recevoir des instructions, des savoirs par d'autres personnes au quotidien. Et la transmission est une partie très importante de mon travail d'artiste et de chercheuse. Et je pense que juste en tant qu'être humain, j'aime beaucoup à continuer d'apprendre. Et je pense que les personnes qui m'inspirent le plus aujourd'hui sont des personnes qui sont dans cet état d'être curieux, de vouloir continuer à apprendre tous les jours, même s'ils sont déjà très avancés dans leur vie ou très experts dans un sujet, cette espèce d'état de curiosité. Et je trouve que voilà, accueillir en fait les savoirs des uns et des autres et permettre cette circulation entre les corps, les générations, les classes, les genres, c'est très enrichissant. Donc voilà, pour moi la transmission, c'est un peu une force de vie qu'il faut entretenir.
D'accord. Donc aussi, il y a une place énorme en dehors de l'école. Je pose cette question parce que forcément, l'école, c'est un mot qui pourrait être réduit à un système scolaire national. Mais pour moi, école, il y a une autre chose aussi. Il n'y a pas que le système éducatif. C'est, parce qu'on va parler tout à l'heure d'Isadora. Donc c'est un mot qu'on peut utiliser pour d'autres contextes.
Complètement.
Donc, je fais exprès de poser le mot, mais bien évidemment, chacun va le pouvoir interpréter à partir de son expérience. Et donc, le premier contact avec le contact en pro, parce que tu as eu cette rencontre importante, comment ça s'est passé et comment tu as...
Oui, c'est ça. Donc, avec Wes Howard, qui était déjà très avancé dans son parcours et sa carrière, quand il intervenait donc à l'option danse du lycée Jean Durand à Castelnaudary, lycée qui n'existe plus à l'heure actuelle. Et lui, c'est quelqu'un qui était très nourri de l'héritage plutôt post-modern dance, qui avait élaboré tout un travail autour de l'improvisation. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert qu'est-ce qu'on pouvait appeler improvisation en danse, quels pouvaient être les outils de la composition instantanée et tout cet univers plus post-modern dance, Trisha Brown, Cunningham, tout ce truc-là, qui était complètement exotique pour moi.
Pour toi, bien sûr.
Complètement. Et en travaillant ce rapport aux habitudes du mouvement, essayer de déceler nos habitudes de danse, de mouvement, essayer de les déconstruire, ouvrir les possibilités, comment danser avec l'autre, danser avec l'espace, éventuellement se dégager d'un rapport narratif au mouvement.
Un rapport narratif ?
Ouais.
Comment décrire ce qu'on est en train de faire ?
C'est ça, c'est-à-dire pas être dans des imaginaires hyper concrets. Comme on peut l'avoir chez Isadora Duncan, où on va te dire tu poses ta main sur l'eau et tu caresses une surface d'eau. Là, c'était essayer justement de pas être dans un truc narratif, mais plutôt être dans un truc très sensoriel, de tactilité par exemple, ce genre de choses. Ou ne pas danser avec la musique. On pouvait danser en silence ou danser sur de la musique baroque, mais en essayant de ne pas être que dans
le rythme.
Que dans un truc baroque. Enfin, voilà, tout ce genre de travail-là qui était marrant et pas forcément toujours intuitif.
Non, c'est contre-intuitif même, mais c'est
mais
ça qui...
Mais l'idée, c'était d'aller un peu se mettre au travail, tu vois, et de bousculer un peu les habitudes. Mais c'était extrêmement enrichissant et ça m'a vraiment donné ce goût de la danse dans cette qualité, on va dire, de chercher, en fait, de chercher ce qui te plaît, qu'est-ce que tu aimes faire, pourquoi tu aimes le faire. Et aussi, j'ai beaucoup dansé dans ce cadre-là, dans des espaces qui n'étaient pas dédiés à la danse. On dansait dans des cloîtres d'abbaye, dans des espaces extérieurs. Donc, j'ai vraiment senti aussi ce goût de la danse qui va se connecter à des environnements...
À des espaces autres.
Autres.
Que celui qui sont dédiés à la danse ou au spectacle.
Au spectacle, ouais.
Et donc, il y avait un écart en termes de ce qui s'est fait en campagne, parce que ceci était un c'est travail ça. De campagne et que...
C'est ça, on était en milieu rural, donc c'était fou de pouvoir vivre de telles expériences. Donc voilà, à Castelnaudary, qui est une petite ville de l'Aude, on est vraiment plutôt dans ce qu'on appelle le milieu rural, là où forcément la culture n'est pas forcément facilement accessible si tu n'es pas dans une famille qui a des habitudes liées à ça. Et c'était aussi intéressant par Ouest de découvrir un monde qui est plus proche de la danse contemporaine telle que on l'entend quand on est des artistes chorégraphiques, mmh. c'est-à-dire l'expérimentation, travail avec du protocole, et qui est très différent de la danse contemporaine qu'on peut faire dans les cours de danse dans les écoles
oui.
en milieu ruraux, où il y a un espèce de style voilà, un peu reconnaissable, où on fait tous les mêmes chorégraphies en fin d'année sur les mêmes tubes de l'année. Enfin, mmh. voilà, on a tous nos petits débardeurs, nos petits shorties noirs, enfin, ces trucs-là. Et c'est marrant de constater qu'il y a un écart entre la danse contemporaine que tu fais à 15 ans dans ta petite école et la danse contemporaine que tu fais dans les compagnies à Paris. Enfin, quand on voit ce que les chorégraphes proposent dans les scènes nationales, où finalement, cette catégorie, ben, on ne comprend plus trop ce qu'elle ouais. veut dire. Parce que
mais c'est customisé, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une façon très singulière pour un petit nombre de personnes de faire de la manier, remanier.
Donc c'est ça, de se connecter au mouvement, quoi, d'une manière ou d'une autre.
Pour moi, la transmission, elle est là. Hein. Il y a une importance à cette, comme je disais, customisation d'une technique. Parce que ça passe par des os et des articulations à chaque fois différentes. Et donc, tout ça va nous aider énormément quand on va parler tout à l'heure du point central que je vais aborder avec toi. Parce que Julie Douboura a une pratique, d'ailleurs j'ai pu la rencontrer grâce à un petit affiche que j'ai retrouvé. Et on vous racontera tout à l'heure de quoi il s'agit. Et tu viens de la philosophie, et ça nous intéresse oui. beaucoup, parce que j'imagine que ce que tu disais tout à l'heure de rechercher, et peut-être je le connecte toujours la recherche à un point à la philosophie, parce que tout a commencé par les grands. Et toi
S'interroger, en fait.
C'est
tout
ça.
Simplement. Et oui, je ne suis pas allée faire une formation de danseur, danseuse. Je suis allée en prépa littéraire, où j'ai, on va dire, cultivé un goût pour la philosophie, qui était une matière que je ne comprenais pas beaucoup au début.
Oui, c'est dur parfois.
C'est étonnant puisqu'on passe d'un mode de scolarité où on t'apprend à juste ingurgiter des savoirs, les apprendre par cœur et les ressortir sans vraiment trop comprendre comment ça s'articule. Et la philosophie, par définition, il faut s'interroger et articuler soi-même ses propres pensées. Donc il faut être actif d'un seul coup. Et là, ça change tout.
Oui.
Ça m'a complètement eue, et voilà, que ce soit en prépa et après plus tard à la Sorbonne quand j'ai continué en philo, cette capacité à s'interroger sur le réel, à essayer de comprendre comment on va à la rencontre du réel et des autres, et c'était aussi très lié à mon expérience vécue de danseuse.
Mmh.
Où je trouve que quand on danse, on vit un peu des petites quêtes philosophiques, métaphysiques, quoi. On a des petites épiphanies, mais ça passe pas par le mental, c'est par le corps où on va découvrir des choses. On peut voir des connexions hyper fortes avec quelqu'un en dansant qui dépasse le cadre du réel. Et je trouvais ça intéressant de voir des philosophes qui essaient de mettre des mots sur ça.
Mmh.
Notamment, j'ai une grande passion pour la phénoménologie, qui est justement... comment les phénomènes nous apparaissent à la conscience, et ce sont des auteurs et autrices qui ont travaillé sur la question du corps, de la relation à l'autre.
À qui tu penses?
Merleau-Ponty, bien sûr. Et puis après, moi, je suis allée à Paris 8, donc Michel Bernard, qui a été le fondateur de mon département danse, alors je ne peux pas ne pas les citer. Mais en tout cas, toute cette manière d'être en interrogation face au monde, ça m'a énormément stimulée.
Avec une toute petite goutte d'eau, on va faire une petite pause musicale que Julie nous a ramenée pour nos petites oreilles. Et depuis la pertinence liquide de ces gouttes d'eau qui nous est ramenée aujourd'hui par Julie, on écoutait Chopin, aujourd'hui l'opus 28, c'est ça ?
Numéro 15.
Numéro 15, pardon.
Non, c'est pardon. Ça. J'ai juste continué. Opus 28, numéro 15.
Numéro 15, donc je ne me suis pas trompé. On continue aujourd'hui avec Julie Dubois, une danseuse et chercheuse. Et elle nous a déjà raconté un peu de son parcours, mais on veut savoir absolument quelque chose sur ta pratique. Et je te laisse la présenter.
Alors, je suis allée dans un superbe endroit à Paris qui s'appelle le Regard du Cygne. Je vous invite à y aller si vous passez par le 20e arrondissement et qui est fondé par une femme qui s'appelle Amy Swanson.
Ouais.
Et il s'avère que Amy Swanson est une danseuse Duncan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ok.
Il y a une femme qui, au début du 20e siècle, Isadora Duncan, a bouleverser le monde de la danse en décidant de quitter le corset, les pointes, en voulant libérer le mouvement, en défendant que la danse est un art en soi, ce qui n'était pas une évidence à l'époque.
Mmh.
Elle fait partie des premières femmes à danser seule sur scène, elle danse pieds nus.
Oui. Ouais. Avec sur, des tuniques.
C'est ça, en soi, très légère pour permettre une liberté totale de mouvement. C'était complètement révolutionnaire de montrer autant le corps d'une femme à l'époque.
Exactement.
Elle danse sur des musiques qui lui plaisent, qui ne sont pas composées pour la danse.
Mm-hmm.
Donc du Chopin, comme on vient de l'entendre, du Brahms, du Schubert, Beethoven, j'en passe, Scriabine. Ça aussi, c'est très nouveau de voir quelqu'un qui décide de danser sur une œuvre musicale qu'elle a choisie et qui n'est pas faite pour la danse. Et donc, Amy Swanson donne des cours de danse Duncan et j'ai eu l'occasion de tester cette chose-là. Et ça m'a beaucoup intriguée, amusée. Et j'y suis retournée toutes les semaines et voilà que je tombe dedans, que je commence à regarder les archives, à écouter les musiques tous les soirs. Et cette danse-là se transmet depuis plus d'un siècle, comme ça, de femme en femme, parce que c'est essentiellement des femmes qui la dansent. Ça ne veut pas dire que c'est interdit aux hommes, loin de là.
Non, mais il y a...
Mais de fait, c'est beaucoup les femmes qui transmettent, en tout cas.
C'est ça.
Et donc Isadora a fait des écoles, notamment à Berlin. Elle a beaucoup enseigné exclusivement aux jeunes filles, puisqu'elle pensait que vraiment l'avenir pour l'humanité, c'était de donner du pouvoir d'agir aux femmes.
Oui.
Ce qui passe par le fait d'avoir conscience de son corps.
Mmh.
Et ses élèves ont continué de transmettre, et comme ça, d'élève à élève, se sont transmis une technique et un répertoire. Donc, c'est-à-dire une technique, un ensemble d'exercices, de gestes et un répertoire, des chorégraphies sur des musiques très précises. Et voilà que je me suis formée et que je continue de me former dans cette chose-là que je transmets depuis voilà, quelques années. Ça a été notamment cette danse-là, cette technique, le sujet de ma recherche.
De ta recherche officielle.
Oui, c'est ça, au département danse, dans le cadre de mon mémoire, qui avait pour sujet Lisa Duncan, qui est l'élève et la fille adoptive d'Isadora, puisque Isadora a adopté 6 de ses meilleurs élèves, ce qui est quand même un peu original comme situation.
Oui, dépasse tous les cadres de séparation entre le travail, la vie.
On est complètement dans l'entrecroisement entre le personnel, l'affectif, l'artistique, le professionnel, donc c'est un peu le bazar. Et Lisa fait partie donc de cette première génération d'élèves et de filles adoptives. Il s'avère qu'elle a été oubliée notre histoire. Pour plusieurs raisons, et notamment elle a travaillé en France dans les années 20, années 30. Elle a un peu mélangé l'univers danse Duncan avec le cabaret et le music-hall. C'est ce qui n'a pas trop plu à Isadora.
Non.
Donc elle s'est fait un peu comme ça, rejetée, mise de côté, et donc on n'avait plus aucune trace d'elle. Et mon mémoire a été de retrouver des traces de cette femme, Lisa, de pouvoir raconter sa vie et son œuvre.
Son approche.
Et aussi son travail artistique qui a été de faire ce qu'elle voulait.
Vous retrouverez tous les lundis soirs à 18h, de 18h à 19h30 au studio Archipel la pratique de son atelier des danses Duncan.
C'est ça.
Toi, tu donnes cet atelier à Montpellier. Et aussi, vous trouverez un atelier mensuel dans Duncan, un samedi par mois, à 15h30 jusqu'à 18h30, au studio La Nef.
C'est ça.
Aux deux studios qu'on a déjà reçus ici à la radio, qu'on apprécie énormément leur travail et leur espace qu'on donne à des personnes comme toi, et aussi à ceux qui reçoivent l'atelier. Continue un peu, donc maintenant on va parler des pieds de biche.
Oui.
Peut-être la raison du nom et raconter un peu qui c'est.
Alors le collectif Pieds de biche, c'est un collectif que j'ai cofondé avec deux autres artistes, Léa Lousse, Garcia Chatillon et Malvina Servadei, qui travaillent dans des domaines bien différents des miens. Mais nous sommes toutes rencontrées au département danse de Paris 8.
Mais c'était avec toi dans le département.
C'est ça. Okay. Mais elles ont des sujets artistiques et de recherche bien différents. Mais dans la forme, c'est différent. Mais dans le fond, on se retrouve beaucoup. Et la question du nom, eh bien, on a longuement cherché quelque chose qui pouvait nous réunir. On a fini par penser aux biches. Et puis, d'un seul coup, Malvina croise l'enseigne pied de biche à Paris, et on se dit mais d'accord. C'est ça en fait, c'est magnifique parce que le pied de biche c'est à la fois le petit objet de la machine à coudre pour coudre le tissu en fait, le pied de biche c'est cette petite partie qui vient sur le tissu et c'est aussi l'outil qui peut servir d'arme, l'outil pour ouvrir des choses qui ne veulent pas être ouvertes pour casser des vitres. Donc c'est un petit côté poétique forestier punk qui nous plaît bien.
Donc il y a une synthétique autour de ça.
Et c'est en un seul mot, puis il y a eu le côté saut de biche, pied de biche, enfin il y a un truc avec le corps, puisqu'on a le mot pied dans ce terme, qu'on a contracté en un seul mot. Donc voilà.
Il y a quelque chose de la biche quand elle boit qui plaît énormément, quand elle fonce la tête dans l'eau, et après elle ressort pour regarder sur les deux côtés s'il n'y a pas un prédateur, revenir à l'eau. Je trouve ces mouvements très, très forts, non ? C'est d'une vivacité. Et j'ai reçu un mail de ta part, de Julie Dubois, et avec une signature qui m'a beaucoup plu, et je pose souvent à mes invités la question du geste préféré, si un geste qui peut être décrit à la radio, qui est préféré pour la personne, et moi j'aimerais que tu nous décrives cette petite image qui fait la signature de tes mails.
Donc, si jamais vous recevez des mails de ma part, vous allez voir à la fin.
Il va y avoir des appels des auditeurs qui vont dire « j'ai fait un mail de la part de Julie ».
Juste pour voir cette très belle image, c'est trois jeunes femmes, trois élèves d'Isadora qui se tiennent la main et sont en train de courir dans une ronde, un peu comme on fait quand on est enfant dans la cour de récréation.
Oui.
Voilà, et donc elles sont dans cette ronde et ça fait partie d'une danse qui s'appelle les Trois Grâces.
Les Trois Grâces, comme à Montpellier.
Comme à Montpellier,
On connaît la copie et l'original.
C'est ça.
Parce que c'est toujours dans cet esprit, j'aimerais qu'on ferme par ces compléments avec cet univers de Duncan qui est si précieux pour beaucoup de personnes et qu'on avait l'impression pendant le XXe siècle qu'il y avait quelques grands chorégraphes comme Cunningham ou Martha Graham, etc. Et que Duncan nous s'ouvre des portes absolument importantes dans les pratiques. Donc, si tu peux nous dire quelques mots de plus de cet univers qui t'est cher et que tu connais, que tu maîtrises.
Ce qui est intéressant, c'est que cette corporéité qu'on a en Duncan est une qualité d'être et de gestes qu'on voit plus vraiment sur les scènes aujourd'hui. Donc je trouve que rien que pour ça, c'est intéressant à nourrir et à pouvoir croiser avec d'autres techniques comme celles que tu as pu citer. C'est un travail qui est vraiment basé sur la respiration et qui n'est pas sans lien avec des pratiques comme le Qigong, le Tai Chi, le yoga. Donc c'est intéressant puisque c'est une époque où en fait ces pratiques-là arrivent en Occident et fascinent les artistes. C'est intéressant de voir qu'elles se croisent en fait à certains endroits. Et puis à titre personnel, ça vient vraiment prendre tout son sens avec cette question de la mémoire et de l'oubli. Et comment en fait ne pas oublier en fait ce dont on vient et se rendre compte qu'on ne crée pas tout seul d'un seul coup en 2025, mais qu'on est héritier, qu'on le veuille ou non, de tas de choses, et que on a toute cette matière à disposition que l'on peut réinvestir ou pas.
Et donc la genèse dans tout ça, comment tu le vois, parce que j'ai avoir un pont énorme dans quelque chose avec la genèse, avec ceux qui cherchent, ceux qui se posent des questions sur leur corps, non ?
Oui, je trouve que par la pratique du mouvement de manière générale et de la danse, et notamment de cette danse-là, il y a des circulations assez intéressantes entre l'intérieur et l'extérieur, ton intériorité et l'extérieur, le rapport aux autres et aux espaces, qui est très présent. Dans cette danse, on fait beaucoup de choses à deux ou à trois. Il y a une conscience de l'espace énorme. Notamment, le fait de danser à l'extérieur, c'est assez génial à vivre comme expérience. Et donc, c'est vraiment cet endroit où la danse n'est pas juste une pratique pour le spectaculaire, mais c'est aussi une pratique pour nourrir des choses en soi, à l'intérieur de nous-mêmes, et continuer de découvrir en fait, tous les possibles que l'on a à l'intérieur de nous. Et souvent, on n'a pas accès pour plein de raisons.
Oui.
Et donc, c'est intéressant de pouvoir jouer. Et si on veut le réinvestir pour une dimension spectaculaire, ben on peut faire le choix de ça, mais pas que.
Donc, avec ce mélange des recherches et spirituelles, nous devons dire au revoir à Julie. Et souvenez-vous que c'est les lundis au studio Archipel et les samedis au studio de la Nef une fois par mois, où vous pourrez trouver la pratique de cette fille intéressante que j'adore avoir rencontrée, avoir eu l'opportunité d'inviter ici à l'antenne. Je remercie à toute l'équipe de Divergence de nous avoir reçu cette journée. Et je vous souhaite des beaux mouvements. Et à la prochaine, Julie.
À la prochaine. Merci beaucoup.
Bonne semaine.
Alors, tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people dance.
Qu'est-ce que ça te fait, au juste, lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!